Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM et comme chaque mercredi, à partir de 16h jusqu'à 16h30, vous retrouvez le magazine Campus Lille Info, un magazine donc dédié à l'Université de Lille d'une manière globale, Lille 1, Lille 2 et Lille 3, puisque ces universités vont à terme certainement fusionner. C'est peut-être aussi une des raisons aujourd'hui de la présence de trois personnes représentant chacune leur université pour l'instant, Lille 1, Lille 2 et Lille 3, pour parler d'un thème, une soirée partenaire. Donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sophie Tison, qui est chargée de mission pour les relations entreprises Lille 1. Bonjour Madame Tison.
Bonjour.
Monsieur donc Ghislain Cornillon, qui est vice-président en charge des relations avec le monde économique et valorisation de Lille 2. Bonjour Monsieur Cornillon.
Bonjour Monsieur.
Et Éric Milke, donc, qui est chargé des relations milieux socio-économiques de Lille 3. Bonjour Monsieur Milke. Donc voilà, une soirée partenaire. Donc c'est une soirée qui a pour but quoi exactement ?
Alors, cette soirée a tout simplement pour but de remercier d'abord l'ensemble des partenaires de l'Université de Lille, ensuite de faire peut-être mieux connaître le projet de fusion de l'Université de Lille qui aura véritablement toute son ampleur en début 2018, et puis également de développer les soutiens à l'IDEX tout au long de la soirée.
Donc on peut peut-être rappeler que les trois universités se regroupe au sein de cette entité qui s'appelle l'Université de Lille, notamment avec ce projet IDEX pour valoriser ce qu'elles font et aussi, on va dire, aborder les grands dossiers, les grandes problématiques et les grands financements des prochaines années. Donc, Madame Tison.
Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on parle un petit peu plus de l'IDEX, c'est ça ?
J'ai un bien petit compris peu, votre parce question. Qu'il va entrer aussi dans le cœur de ce projet.
Donc déjà, je pense qu'effectivement, il faut être assez clair, l'Université de Lille, je pense, existera qu'il y ait IDEX ou pas. Le projet IDEX, bien sûr, est lié à cette fusion, mais il est corrélé. Mais l'Université de Lille se fera qu'il y ait l'IDEX ou pas. On espère bien sûr tous qu'il y aura IDEX. Voilà. Donc l'IDEX, effectivement, l'objectif de l'IDEX, vous connaissez un petit peu le principe, hein, c'est on a répondu donc à cet appel d'initiative d'avenir. Et donc le pré-projet a été sélectionné et donc on vient juste de soumettre la version finale de notre projet qui sera examinée par le jury et qui sera auditionnée en janvier avec une décision fin janvier sur l'acceptation de ce projet.
Voilà, donc l'IDEX sera présenté en tant que projet aux partenaires de Lille 1, Lille 2 et Lille 3.
Oui.
Lors de cette soirée qui aura lieu le jeudi 12 novembre, c'est une soirée on va dire quand même privée. Disons les choses.
C'est une soirée
sur invitation
qui est orientée sur les partenaires de l'université et qui regroupe également les personnes qui sont en relation avec ces partenaires au sein des universités. Donc on a normalement aux alentours de 500 places, ce qui veut dire qu'effectivement l'entrée est liée à ces partenaires.
Donc ces partenaires vont se retrouver dans un lieu un peu symbolique qui est
L'Imaginarium, la pleine image entre Tourcoing et Roubaix, qui est un lieu qui incarne la relation entreprise-université, puisqu'il y a des laboratoires de recherche, Lille 1, Lille 3 principalement, et également un petit peu Lille 2. C'est un espace de coworking où beaucoup d'étudiants se retrouvent, donc c'est assez sympathique tout simplement, et ces étudiants échangent avec des entreprises, avec des chercheurs sur place. Et puis c'est un lieu un petit peu atypique, avec une architecture sympathique qui va donner une excellente image en fait de l'Université de Lille.
On peut dire aussi que c'est un lieu d'avenir, hein, puisque c'est un nouveau lieu qui a été créé justement pour donner une visibilité à des gens qui ont de l'imagination.
Tout à fait, des gens qui ont de l'imagination, qui créent des choses, donc des créateurs d'entreprises, des chercheurs qui sont également des créateurs. Et puis c'est un lieu d'échange. C'est ça le plus important, parce que cette soirée est sous le signe de l'échange. À l'université, parfois, nous faisons des discours un petit peu longs. Cette fois-ci, le but, c'est de favoriser les échanges qui peuvent exister entre les enseignants-chercheurs, les entreprises, le monde économique, le monde associatif, enfin l'ensemble des acteurs du périmètre universitaire.
Voilà, donc, M. Milke nous proposera un petit peu dans le monde économique qui va être présenté ce jour-là, qui va venir. Vous pourriez peut-être dire en gros les catégories de partenaires.
Alors, les catégories de partenaires sont assez simples pour préciser les choses. En fait, nous souhaitons accueillir l'ensemble des partenaires actuels et des partenaires futurs de l'Université de Lille. Comme vous le voyez, c'est assez large. Dès que vous êtes représentant d'une entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez engager cette entreprise dans une démarche de construction de partenariat, vous êtes les bienvenus pour tout simplement partager cette fusion des universités lilloises et soutenir l'IDEX. Alors, on a des partenaires depuis longtemps. Lille 3 organisait déjà une soirée partenaire depuis pas mal de temps et avec succès, et dans les autres universités également. Le but, c'est de mélanger des gens qui ont l'habitude de travailler avec nous, puis des gens qui vont découvrir ces partenariats.
Voilà. Donc, Monsieur Milke, vous êtes chargé des relations avec les milieux socio-économiques de Lille 3. Est-ce que ces partenaires économiques ou socio-économiques sont nombreux, diversifiés, et lesquels sont les plus attendus, on va dire, lors de cette soirée ?
J'ai envie de dire, pour nous, il n'y a pas la notion de petits ou de grands partenaires. Comme l'a dit Monsieur Cornillon, toute structure qui a un lien, qui souhaite développer un lien donc de partenariat avec l'université est conviée à cette soirée. On peut citer bien sûr des organisations professionnelles telles que ou les organismes consulaires comme la CCI Grand Lille, la CCI de région, la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la CEMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, ou la CGPME, le MEDEF. On voit toutes les organisations de ce type. Ensuite, des grandes entreprises représentant la région, que ce soit dans le domaine de la distribution, le groupe Mullier, le groupe Auchan, ou dans le secteur du bâtiment avec Bouygues, Nord-Est, on va dire Nordpac, Ramery, etc. Tout le secteur aussi des collectivités hospitalières, CHR, CHRU, etc. Le milieu aussi associatif et culturel qui est très présent dans notre région avec lequel nous avons des liens aussi très forts. Aussi les collectivités, des représentants donc du conseil régional, du conseil départemental et bien sûr de l'AMEL qui donc intervient avec l'université pour développer l'excellence aussi en termes de recherche. Et notamment au cours de cette soirée, donc il y aura différents moments sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Et les visiteurs donc de cette soirée, enfin les participants, parce que c'est pas un salon, c'est véritablement une soirée dans une logique de gagnant-gagnant. Chacun va venir apporter quelque chose, repartira avec quelque chose, mais on veut vraiment co-construire l'avenir de l'Université de Lille. Et c'est d'ailleurs le titre de cette soirée, Innovation, Pédagogie, Recherche. Construisons ensemble donc l'avenir de l'Université de Lille. Donc dans les différents stands sur lesquels on pourra revenir, il y aura un stand donc, qui va présenter les sites d'excellence de l'AMEL, la métropole européenne de Lille.
Madame Tison, donc ces partenaires sont ceux de Lille 1, de Lille 2 et Lille 3. Est-ce que au départ ils étaient un peu différents ou est-ce que finalement vous aviez presque les mêmes quand vous faites le bilan de qui va venir ?
C'est une très bonne question. Je pense que nous avons forcément des partenaires communs. On peut avoir des entreprises qui peuvent travailler sur des aspects plus marketing avec Lille 2, sur des aspects plus informatiques avec Lille 1, sur d'autres aspects avec Lille 3. Donc on a des entreprises communes. On a effectivement après des entreprises qui seront plus spécifiques, qui sont plus soit sur la santé, soit sur le numérique, qui vont travailler plus spécifiquement. Mais je pense qu'on a beaucoup de partenaires communs. On a aussi beaucoup sans doute à apprendre chacun des partenaires des autres. À partager entre guillemets ses partenaires. Donc voilà, on a une diversité, on a déjà chacun une diversité de partenaires. Je pense que notre rencontre va augmenter cette diversité, va nous permettre d'encore mieux apprécier et utiliser entre guillemets, le terme n'est pas bon, mais la richesse de ces partenariats.
Dans le sens inverse, on peut aussi dire que des partenaires potentiels pourront trouver avec vos trois universités une grande ouverture et des possibilités innombrables.
Tout à fait, c'est vraiment l'occasion d'avoir des projets forts, interdisciplinaires. On en discutait justement hier dans un groupe avec des entrepreneurs, des responsables d'entreprises. C'est vraiment l'occasion aussi d'avoir des projets ambitieux, interdisciplinaires, avec les entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait développer. Et cette soirée sera un jalon dans cette collaboration, mais ça sera, ce n'est qu'un des jalons, bien sûr.
Voilà, donc on imagine bien les enjeux de cette soirée partenaire organisée par donc, l'Université de Lille, jeudi 12 novembre à partir de 18h, donc à l'Imaginarium. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'organisation de cette soirée en termes, on va dire, pratiques? Est-ce qu'il y a un programme et sur quoi ça va déboucher en fait?
Donc en fait, on a souhaité cette soirée qu'elle soit dynamique et donc ce ne sera pas le lieu des longs discours. Les discours seront dynamiques aussi, mais donc dans un premier temps, comme j'ai cité tout à l'heure, il y aura la possibilité en fait de visiter un certain nombre d'équipements. Ce sera notamment le cas de la plateforme EarDive du Skylab, donc de l'Imaginarium, avec les chercheurs donc de l'Université de Lille, et ensuite 6 autres stands, donc un stand qui va présenter les sites d'excellence de l'AMEL, comme ça a été cité tout à l'heure, un stand donc, qui va présenter le dispositif des Hub House, qui est un dispositif financé par le Conseil Régional pour développer l'esprit d'entreprendre et donc la création d'activités et donc d'entreprises chez nos étudiants de l'Université de Lille et donc favoriser leur insertion par l'économie. On citait tout à l'heure les projets communs, la plus-value d'être à plusieurs établissements. Et donc la force de l'Université de Lille, c'est 64 000 étudiants notamment, et c'est depuis le 15 septembre une nouvelle plateforme, donc notamment en direction du monde socio-économique, qui s'appelle Lille Agora, qui permet donc aux entreprises ou aux structures associatives, publiques, privées, etc., de diffuser des offres de stages, d'emploi, de contrats d'alternance qui peuvent être visibles par les 64 000 étudiants de l'Université de Lille. Et inversement, il y a sur cette plateforme une CV Tech avec des CV qui sont expertisés par des conseillers donc, de l'Université de Lille à disposition des entreprises gratuitement. C'est véritablement l'un des exemples concrets de la construction de Lille et de la force d'être tous ensemble. À notre stand donc, qui va présenter l'ILIAL, le Learning Center qui se trouve sur ce campus universitaire. À notre stand sur les pédagogies innovantes développées par les équipes pédagogiques de l'Université de Lille. Un stand qui va présenter les possibilités de collaboration avec le monde socio-économique dans le domaine de la formation tout au long de la vie. Et ensuite des tables rondes dans les 3 grands domaines de la recherche. Donc sciences de la vie et de la santé, sciences, technologies, sciences humaines et sociales. Donc ça, ce sera pour la partie, on va dire, de 18h à 19h, la partie d'accueil, mais qui sera donc un accueil actif. Ensuite, donc, on sera dans la partie un peu plus institutionnelle avec 2 prises de parole. Une prise de parole donc de Mme Fabienne Blaise, présidente de l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, qui va présenter le projet de construction de l'Université de Lille, dont les 2 caractéristiques sont un mode d'organisation donc fusionné et en même temps un mode d'organisation donc je disais fusionné qui en même temps s'appuie sur une construction en mode projet. Parfois les 2 ne sont pas toujours compatibles et c'est le cas du projet de l'Université de Lille et c'est donc sa force. Ensuite une intervention de M. Xavier Van Henrich sur la candidature IDEX et l'importance du soutien du monde socio-économique, ce qui est déjà le cas. Ensuite, une vidéo qui va présenter 3 exemples donc de collaboration université-entreprise, que ce soit dans le thème de la recherche ou notamment de la co-gouvernance d'un certain nombre de structures. Et ensuite, donc un grand témoin. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est une soirée où l'Université de Lille va montrer ce qu'elle peut apporter au monde socio-économique pour le développement de la région. Et inversement, où le monde socio-économique va aussi dire quel est le soutien, est-ce que le monde socio-économique peut apporter à la construction de l'Université Lille. Donc un grand témoin en la personne de M. Philippe Vasseur, président de la CCI de région
Grand Lille.
Nord de France.
Nord de France.
Voilà. Grand Lille, c'est Philippe Ourdin. Et ensuite, donc, il y aura le moment convivial où on va développer et renforcer nos réseaux avec le cocktail, bien sûr.
Voilà, donc ce temps ensuite d'échange, il aura été favorisé, on va dire, puisque tout aura été installé, balisé. Vous aurez déjà annoncé les grandes forces de vos structures respectives et la mise en commun de ces forces. Donc, vous allez pouvoir, après, chacun pourra se rencontrer pour échanger et monter des plans, hein, des projets, on peut dire.
Tout à fait. On a déjà commencé à organiser ces éléments-là au travers de groupes politiques et de groupes techniques. Les groupes politiques, c'est ce que nous avons fait hier, regroupent des personnes sur des thématiques, par exemple la relation avec le monde économique. Les groupes techniques vont travailler sur la mise en œuvre opérationnelle. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un maximum d'intervenants. C'est-à-dire que hier, on a vécu une très belle réunion avec des entrepreneurs. On était une dizaine autour de la table. Si on pouvait développer en fait le nombre à 20 ou 25, pas beaucoup plus, parce qu'après c'est difficile de faire une réunion véritablement concrète, ce serait néanmoins très intéressant pour nous. Donc on a besoin d'échanger, de se benchmarker, c'est-à-dire un petit peu de se solliciter intellectuellement pour avoir les meilleures idées d'organisation pour cette fusion et pour réussir l'IDEX également.
Voilà. Alors, c'est vrai que les entreprises, d'une manière générale, sont déjà un peu représentées hein, dans les conseils d'administration.
Beaucoup. Effectivement, la plupart du temps, vous avez trois ou quatre entreprises qui siègent au conseil d'administration des universités. Mais vous avez également énormément d'entreprises qui siègent au conseil de fac, dans chacune des 30 facs à peu près actuellement qui existent. Et puis, il y a un endroit qui est extrêmement important dans cette relation faculté-entreprise, ce sont les conseils de perfectionnement. Ces conseils de perfectionnement décident aussi de la politique formation des facultés et ça doit être en lien forcément avec le monde de l'entreprise qui représente une bonne part des recrutements de nos étudiants.
Comment on trouve un juste milieu entre la pression économique et l'intérêt de l'université en tant que lieu de formation et de recherche ?
Il n'y a pas véritablement d'équilibre à trouver. Effectivement, les ressources financières sont contraintes, il faut être clair. À la fois, on a tous la volonté de développer le meilleur apprentissage pour nos étudiants et de faire en sorte qu'on puisse les amener vers l'emploi. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la recherche. Et de la même façon, quand on mène des projets innovants, on s'aperçoit qu'on arrive à construire des projets. Mais Sophie, peut-être, va avoir des exemples plus précis sur la dominante recherche.
Oui, je pense que sur la recherche, il n'y a pas une opposition entre la recherche académique qui intéresse les chercheurs et la recherche appliquée qui intéresse les entreprises. Il y a vraiment, pour moi, une fertilisation entre les deux. Les bons exemples, mon exemple chouchou, c'est les chiffres. Donc, les thèses qui se passent en entreprise, qui sont, donc les thésards, les doctorants sont salariés de l'entreprise et l'entreprise a une aide d'un NRT. Mais là, vraiment, je pense que c'est vraiment un bon exemple où chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que pour l'équipe de recherche, ça apporte des nouvelles problématiques. C'est vraiment une façon de nourrir sa recherche, peut-être aussi de façon un petit peu pragmatique, puisqu'elle a en général une aide aussi par rapport à l'encadrement du doctorant, mais vraiment ça la nourrit de nouvelles problématiques. Et en général, le doctorant est très satisfait d'avoir à la fois ce contact avec une recherche un petit peu amont et avoir vraiment l'entreprise, d'avoir vraiment toute cette chaîne. Et ça, c'est vraiment un bon exemple où il y a vraiment... L'important, c'est vraiment cette chaîne. Et il n'y a pas une opposition entre les deux. Alors, bien sûr, on peut dire, on va pas. Il y a un moment, il faut répartir les ressources, entre guillemets, et on peut se poser la question. Mais je pense qu'effectivement, l'équilibre se fait assez naturellement entre une recherche amont et puis une recherche plus appliquée pour aller jusqu'aux entreprises.
Justement, est-ce que ces partenaires, hein, ces entreprises d'une manière globale, on va dire, peuvent amener aussi une réflexion sur comment les universités s'adaptent aux problématiques de leur temps? Ou est-ce que ça, vous avez déjà des chercheurs qui pensent et qui réfléchissent dans ces domaines?
C'est une question difficile, vas-y,
c'est extrêmement important. On a vraiment besoin d'avoir la position des entreprises. D'ailleurs, il y a souvent plusieurs positions, puisqu'en fait, ces entreprises ne se sont pas forcément toujours concertées. Et c'est bien la richesse du débat. C'est-à-dire que pour les différents métiers, donc dans le champ formation, on a besoin d'avoir différentes appréciations des compétences à développer pour les étudiants à terme. Et ce qui est très difficile, c'est la projection, c'est-à-dire non pas de se dire « voilà, que faut-il comme compétences dès septembre 2016 ?» par exemple, ça c'est simple, mais de se dire « voilà, en 2020 ou en 2025, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour les étudiants ?» Et ça se passe très naturellement au sein des conseils de faculté et des conseils de perfectionnement, où justement on prépare en fait c'est ce qu'on appelle les maquettes de cours pour qu'elles soient accréditées et efficaces. Dans le champ recherche, se passe également par les pôles de compétitivité, qui sont des lieux d'échange entre les industriels et les chercheurs, très opérationnels.
Donc on peut peut-être parler maintenant de visibilité à long terme. Vous, vous travaillez à J- combien ou à année moins combien par rapport à ces sujets qui vont en fait diriger vos universités?
C'est assez paradoxal parce que, par exemple, la soirée que nous organisons jeudi prochain, le 12, a été décidée juste avant l'été. Et à la fois, nous devons faire des choses très opérationnelles qui vont porter sur un temps assez long. C'est-à-dire que la fusion des universités lilloises aura lieu véritablement début 2018 et forcément, elle va nous engager sur des décennies. Donc on travaille dès à présent pour 2022. 2030, 2040, mais d'une façon très concrète, on se voit quasiment tous les jours. Cette semaine, par exemple, on s'est vu tous les jours, tous les trois.
Donc cette réflexion sur le long terme, est-ce que les entreprises l'ont également pour leur propre compte? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont, elles, cette visibilité compte tenu actuellement, on dit, des difficultés économiques, voilà.
En stratégie d'entreprise, on parle de vision à long terme. Et le principe, c'est que c'est une démarche itérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vision, on la réfléchit chaque année pour dans 10 ou 15 ans, mais on la remettra en question l'année prochaine. C'est exactement ce qu'on doit faire également. C'est-à-dire qu'on a le devoir de se projeter, mais de ne pas être sclérosé par cette projection et de pouvoir revenir, d'ajuster, de mettre en place des tactiques pour qu'on soit le plus proche du terrain.
D'où l'intérêt du dialogue.
Tout à fait.
C'est ce qui est prévu. Donc dans cette soirée qui, on le rappelle, aura lieu jeudi 12 novembre. Est-ce que si quelqu'un veut encore s'inscrire en tant qu'entreprise, il peut le faire et comment?
Tout à fait. Donc il peut le faire directement sur le site.
Sur le site, tout
simplement.
Université
de Lille, il y a un onglet soirée partenaire, il peut s'inscrire.
Et puis... nous acceptons tout le monde, c'est-à-dire que même le soir même, voilà. Si une personne est intéressée pour nous rejoindre, nous l'accueillerons avec grand plaisir à partir du moment où elle représente une entreprise qui peut s'investir dans ce projet-là.
Voilà, bien, merci donc Ghislain Cornillon, merci Eric Milke, merci Sophie Tison, et très bonne journée, et donc bonne soirée partenaire.
Merci à vous.
Vous écoutiez donc Campus Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Prochaine émission la semaine prochaine à partir de 16h jusqu'à 16h30.